так самотньо ніколи не було. Мої друзі поїхали усі так далеко. Знаєш, сьогодні, коли ти питаєш, як ти, це те ж саме, що.
C'est un miracle que mon bébé n'ait pas été blessé. Il était assis juste à côté, dans un siège d'enfant. On dort ici presque toutes les nuits, pour éviter que Victoria ne soit effrayée par les bruits des bombardements. Des bombes russes. Des putains de bombes russes.
Depuis le 24 février 2022, à l'aube, l'armée russe a envahi l'Ukraine, menant une guerre totale, replongeant l'Europe dans l'angoisse d'un conflit général. Les hommes sont mobilisés, les femmes et les enfants fuient le pays, mais beaucoup d'entre elles ont pourtant choisi de rester et d'agir pour leur patrie. Mères et filles, combattantes ou soignantes, politiques ou résistantes, elles s'impliquent à tous les niveaux dans la survie quotidienne de l'Ukraine. Ce film documentaire « Ukraine, des femmes dans la guerre » a été proposé dans la compétition internationale de plus de 40 minutes lors de la 30e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 30 mai au 4 juin dernier à Douai. Avant de retrouver Charles Comiti et Julien Boluen, les réalisateurs de ce film documentaire, je vous propose d'écouter les réactions de lycéens recueillies à l'issue de la projection. Vous venez de quel lycée exactement ?
Lycée Nazareth, à Saint-Martin-de-Boulogne.
Alors, tu peux me donner un peu ton avis sur le film que tu viens de voir ? Ce que tu en as pensé en général ?
J'ai trouvé ça très intéressant. Ça nous montre aussi des aspects de la guerre qu'on ne voit pas tout le temps aux informations. Et ça montre aussi que malgré la situation dans laquelle ils sont, il y a encore beaucoup d'Ukrainiens qui y croient encore et qui ne lâchent pas.
Un petit mot peut-être sur le travail de la photo de Véronique de Virgier. Comment tu les trouves ? Parce qu'il y a quand même certaines notes d'espoir. Il y a des photos qui t'ont un peu plus marqué que d'autres ?
Moi, je trouve ça vraiment admirable. Et je trouve que c'est incroyable de réussir à prendre en photo des choses aussi dures. Et je trouve que c'est très important pour pouvoir nous les montrer.
Alors et toi, tu t'appelles comment ?
Clara.
Alors, tu peux nous donner un petit peu ton avis, toi ?
Un peu comme Rosa, je pense que c'est un reportage qui est très important pour nous, enfin, toutes les générations, puisqu'il nous montre la cruauté d'une guerre, mais par plusieurs aspects. On ne voit pas seulement ce qui est au front, mais on voit aussi ce qui est à l'arrière, les femmes, les enfants. On voit, comme elle disait, on voit aussi qu'il y a quand même une certaine part d'espoir et ils arrivent encore à trouver des aspects joyeux de la vie. Et je trouve que c'est très important de le dire et de le montrer.
Ce film parle des femmes. Toi, en tant que femme, justement, ton regard là-dessus, comment tu les as trouvées ?
Je les trouve merveilleuses et très courageuses parce que c'est, par exemple, j'arrive pas à prononcer le nom, mais par exemple, la femme qui a des enfants qu'elle a envoyés en Pologne, je trouve que c'est vraiment admirable.
C'est Maroussia.
Maroussia, voilà. Je trouve que c'est vraiment admirable d'aller au front. Je sais pas comment dire, mais de toute façon, toutes les femmes sont admirables. Qu'elles soient au front, qu'elles soient à l'arrière, elles ont toutes un rôle très important, je trouve.
Tu t'appelles comment ?
Gauthier. Okay. J'ai trouvé ce documentaire très touchant. Je trouve que c'est important de montrer les différents aspects de la guerre. Et montrer que les femmes aussi sont importantes pendant ce conflit. Et que ce n'est pas seulement les hommes qui sont sur le front. Et c'était aussi touchant de voir la vie encore des civils qui sont restés pendant la guerre. C'est terrible de voir tous ces corps qui sont laissés en ville, toute cette souffrance, etc.
Et un petit mot peut-être sur une scène qui t'a peut-être plus marqué qu'une autre ?
Je dirais la scène où ils sont près d'un centre commercial la nuit et qui se font bombarder sans savoir d'où ça vient, etc.
C'est ici que notre ami a été enterré. Voici la croix, c'est sa tombe.
Là, rien que là, je compte 3, 4, 5, 6, au moins 14 corps. Là, c'est vraiment, il n'y a plus d'humanité, quoi.
Les Russes sont là, là et là.
Pluie, boue, humidité, mais ce n'est pas grave, on va tenir. Tout va bien, on ne baisse pas les bras.
On retrouve à présent les réalisateurs Charles Comiti et Julien Boluen pour évoquer avec eux la conception de ce film documentaire, les difficultés rencontrées lors du tournage, mais aussi la situation des reporters de guerre qui est menacée. Alors donc, Charles Comiti et Julien Boluen, bonjour.
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 Alors vous êtes les réalisateurs, co-réalisateurs du film Ukraine, des femmes dans la guerre. Alors d'abord, première question, quand est-ce que vous êtes parti sur le terrain? À quel moment justement du conflit russo-ukrainien?
Alors on est parti au tout début de la deuxième partie de la guerre, donc on est parti le 27 février 2022. On s'est rendu à Lviv au début, on a ensuite pris un train pour Kiev et puis quand on est arrivé on s'est rendu compte de cette invasion russe, de cette armée russe qui était vraiment aux portes de la capitale ukrainienne et qui essaie à tout prix de rentrer dans Kiev. Ils sont d'ailleurs rentrés au tout début, le 24, ils sont rentrés parce que dans Kiev nous avions vu des carcasses de chars russes, mais ils se sont très vite fait repousser par les Ukrainiens jusqu'à Irpin puis Boutcha. Et nous on a commencé à filmer, en fait, à faire notre documentaire dans la banlieue de Irpin, là où il y avait les combats.
Il y a également une autre protagoniste dans votre film, hein, c'est la photographe. Est-ce qu'elle était déjà, elle, sur place ou vous êtes partis ensemble ?
On est partis ensemble. C'était prévu avec Canal+, qu'on fasse un film sur les femmes dans la guerre, avec Véronique de Vigry qui était plus ou moins la ligne rouge du doc.
Vous êtes co-réalisateur. Vous êtes aussi vos propres monteurs, j'imagine. Comment vous travaillez ensemble? Comment ça se passe?
On travaille régulièrement, Charles Comiti et moi. On a déjà fait plusieurs sujets pour différentes chaînes de télévision, donc on a l'habitude de travailler ensemble. Lui comme moi, on filme, donc ce qui permet parfois de se séparer, donc c'est plutôt bien. Et ensuite, une fois qu'on a tourné le film, on rentre à Paris et puis on a un monteur qui nous monte le film. Quoi.
Ah oui, donc c'est pas vous qui montez, c'est un monteur.
Non, on est avec lui en salle, d'accord, mais c'est lui qui monte.
Okay. Une fois sur deux, ça va être Julien qui va monter avec le monteur et la fois d'après, c'est moi qui vais monter avec le monteur. En fait, on échange, on fait pratiquement tous nos films ensemble et à chaque fois, c'est pour répartir les droits par exemple de Scam, à chaque fois, lui il prend 70, moi 30 et inversement.
Ok, bon.
On a gagné, non, je plaisante.
Alors, donc, les femmes dans la guerre. Bon, alors, évidemment, quand on pense aux femmes dans la guerre, on pense surtout, notamment, la première protagoniste qui apparaît, c'est Maroussia, donc, avec qui vous avez eu la chance de pouvoir partir sur le terrain. Mais il n'y a pas que. En fait, il y a aussi d'autres femmes qui gèrent. Expliquez-nous un petit peu les différents portraits de ces personnages.
Alors, il y a Maroussia, oui, qui nous a vraiment sauvés en termes éditorial, parce que il faut savoir qu'au début du conflit, les Ukrainiens fermaient absolument toutes les portes aux zones de combat. Mais il n'y avait presque aucun journaliste dans la banlieue d'Irpin, par exemple, ni dans les bombardements de Kiev. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sécurisaient la zone, il mettait un périmètre et les journalistes ne pouvaient pas rentrer. Donc le seul moyen de faire les évacuations de blessés, de civils, c'était vraiment de s'habiller comme eux, d'être comme eux, de faire presque... Voilà, ils ont voulu qu'on enlève... Pour pouvoir les filmer, il fallait qu'on enlève tous nos gilets presse, etc. Ce qui pouvait nous permettre, en fait, de rentrer plus ou moins clandestinement dans les barrages et pour pouvoir filmer de l'intérieur les bombardements en nous faisant passer finalement pour des soldats du bataillon, quoi.
Donc l'avantage c'est que vous aviez pas besoin de fixeurs vraiment alors finalement.
Alors si, ça c'est primordial, ah. Déjà pour la langue et ensuite pour les connexions auxquelles on peut avoir par rapport à eux, que ce soit dans l'armée. Alors on en a rencontré aussi de notre côté, mais si, ils sont sans eux on pourrait pas faire de film en fait, hein. Ils sont primordial pour un film.
Si on parle un petit peu justement de ces femmes et surtout de Maroussia et les autres, parce que elle formait elle-même également les autres, comment ça s'est passé? Parce que il y a aussi, je voudrais revenir sur le regard des hommes. Parce que les femmes dans la guerre, les femmes militaires, alors qu'elles n'étaient pas forcément avant. Et il y a un témoignage d'un jeune militaire d'ailleurs qui dit qu'elle est impressionnante. On a l'impression que si elle n'était pas là, il flipperait sa race, entre guillemets. Hein.
Oui, carrément, elle est un symbole d'espoir, elle donne beaucoup de courage à ses soldats, à ses ours comme elle les appelle. Mais c'est finalement une personne très douce. Elle peut être très dure, donc devant ses soldats, elle est très autoritaire, très dure. Mais en tout cas, moi personnellement, on a tissé plus ou moins un lien d'amitié parce qu'on a quand même tourné une dizaine de jours avec elle. Je me suis rendu compte vraiment d'une mère de famille comme les autres, très douce. C'est juste qu'elle a vraiment une double vie, quoi. La vie de combattante et de chef de guerre et cette vie de femme normale.
Et puis, il y a une des scènes frappantes, la scène de nuit par exemple, là où on voit... Comment ça se passe? J'imagine que vous êtes habitué sur le terrain, vous êtes reporter, grand reporter, vous couvrez des conflits forcément. Et là, comment ça se passe? Parce que ça pète de partout. Est-ce qu'il y a une stratégie de matériel logistique, on va dire, pour éliminer toutes les poids de caméra, etc., pour éviter, caméra à l'épaule, je ne sais pas trop.
Alors c'est une très bonne question, là c'est une petite anecdote. Donc en fait, le soir, personne ne pouvait sortir dans les rues, c'était le couvre-feu. C'est couvre-feu. Donc nous, on était avec cette unité et donc on était sur les checkpoints. Et là, d'un coup, on attend un gros boom et donc on avait une grosse caméra plus une petite caméra. Ils nous amènent sur le lieu, donc on marche un kilomètre en se rendant à l'endroit et plus d'un kilomètre. Et en fait, là, c'était un grand débat qu'on avait lui et moi parce que vu qu'on n'avait pas les autorisations, arrive avec une grosse caméra, on se dit bon, on va se faire toper en fait par les militaires, on va pas pouvoir filmer. Et donc là, c'est gros débat. Donc la petite anecdote, c'est qu'on a caché la grosse caméra, en pleine nuit sur un parking. On arrive sur place, je sors la petite caméra, on fait quelques images et là, d'un coup, il y a une autre salve de missiles qui arrive. Donc là, on le voit dans le film, tout le monde se met à courir. Donc là, je veux dire, tout le monde subit. On subit, les militaires subissent. De toute façon, on les voit, ils courent, ils tombent par terre. Enfin, c'est vraiment... Tout le monde fait comme il peut, quoi. Et puis ensuite, on termine la séquence. Et le lendemain, on a voulu récupérer cette caméra qu'on n'a jamais retrouvée.
J'imagine que pour les militaires, peut-être qu'ils sont aguerris à ce genre de bombardement. Mais vous, le taux d'adrénaline, il doit monter un sacré cran quand même.
Ouais, le taux d'adrénaline monte énormément. En fait,
on a le temps de réfléchir, justement.
Non.
Bah non.
Julien et moi, on se protège vachement quand on est sur ce genre de terrain. Là, cette fois-ci, c'était Julien qui tournait. On tourne tous les deux, mais là, cette fois-ci, c'était Julien qui tournait. Moi, je pensais qu'il y a une seule chose parce qu'en fait, il y a eu un premier bombardement. Et c'est la technique russe, hein, c'est d'attendre 30 minutes que les secours arrivent pour ensuite rebalancer une roquette et faire le plus de victimes possible. Quand la deuxième roquette tombe, heureusement elle est interceptée par les anti-aériens, c'est pour ça qu'on entend le gros boom en fait juste au-dessus de nos têtes, c'est la roquette qui explose au-dessus de nous. Et à ce moment-là, moi je pense qu'il y a une chose, c'est retrouver Julien. Et quand je le vois arriver, en fait il était en train de tourner avec la petite caméra, il était en train de faire toute la séquence, quoi. Mais on réfléchis, Julien filme et moi je veille sur lui.
Et malgré la peur, parce qu'on a tous peur, mais les militaires y compris, hein, Les militaires y compris ont peur parce qu'une bombe qui nous tombe dessus, bah, tout le monde part en courant. Mais voilà, dans ce genre de situation, on doit filmer. Donc c'est ce qu'on a fait plusieurs fois. Charles l'a fait aussi quand il s'est fait tirer dessus. On filme tout.
Deux autres scènes aussi qui m'ont beaucoup marqué, eh ben, celle où on suit cette famille, les parents de Youri. Voilà, on a retrouvé, il a disparu, on ne sait pas où il est, ils ne savent pas où il est exactement. Ils ont peur forcément ben, qu'il soit mort. Et puis, ben, cette fameuse cette morgue improvisée où ils sont obligés d'aller chercher et retrouver éventuellement le cadavre de leur fils. C'est des moments difficiles, j'imagine, pour vous aussi également, parce que vous filmez. Donc je ne dis pas qu'il y a du voyeurisme, mais c'est un petit peu... Voilà, je ne sais pas, expliquez-moi un petit peu comment vous l'avez vécu cette scène.
En fait, cette mère de famille qui cherchait son fils, elle s'appelle Tatiana. En fait, nous, on l'a rencontrée dans une morgue. Parce qu'on devait filmer les morts, on devait filmer, montrer qu'il y a eu énormément d'exactions, montrer que c'était pas des militaires, que c'était des civils. Ils avaient pas tous les cadavres qu'on voyait dans les rues, c'était des cadavres principalement de civils. Et puis on l'a rencontré. C'était très difficile. C'est avec mon fixeur, je suis allé la voir et je lui ai demandé est-ce que je peux me joindre à votre quête, est-ce que je peux filmer votre histoire. Et là, je me rappellerai toute ma vie, elle m'a regardé dans les yeux pendant 15 secondes et puis elle m'a dit « da ». Et là, on est monté dans sa voiture et puis on a cherché partout, dans tout l'oblast de Kiev, son fils, dans toutes les morgues. Et donc la petite anecdote qui n'est pas diffusée, c'est qu'en fait, nous, un matin, dans notre hôtel, on reçoit un appel parce que nous aussi, on avait mené notre enquête de notre côté. Et puis notre fixeur nous tombe dans les bras en nous disant qu'il y avait 99% de chances que Youri soit dans cette morgue là. Donc en fait c'est nous qui avions dû annoncer en fait la mort de Youri à Tatiana. Et puis après on est allé à la morgue. Alors filmer, on filme la manière la plus éloignée possible, on fait des plans larges, fixes, on fait pas de beau, vraiment c'est un témoignage pour l'histoire de toutes ces mères et ces pères qui ont perdu leurs enfants, et je pense que c'est un témoignage important. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de... on n'a pas vu beaucoup de personnes qui recherchaient leurs enfants, en fait. Il n'y a pas eu d'histoire comme ça, diffusée, en fait. Je pense que c'est une des seules histoires où on voit vraiment une mère chercher son fils au milieu des cadavres de Boutcha, quoi, qui est quand même un des plus gros massacres du XXIe siècle.
Ouais, alors le massacre de Boutcha, justement, on l'a tous vécu aussi un petit peu de chez nous, hein, évidemment, parce qu'on a su ce qui s'était passé, ça a été multiplié dans tous les médias. Et puis là, on parle des femmes dans la guerre, il y a le visage de la photographe qui est aussi, même si elle est aguerrée à ce genre de photos, qui est énormément touchée. Et comment on s'en sort psychologiquement ? Est-ce qu'il y a quelques... Est-ce qu'on se met un barrage ?
En fait, il y a quelque chose qui est connu un peu dans notre profession, c'est la caméra. La caméra, c'est comme un bouclier, en fait. Alors, pas à 100% évidemment, mais le fait d'être derrière la caméra et concentré sur son travail nous éloigne un petit peu de la scène.
Ça nous protège
un petit peu. Donc ça, c'est connu de tous les photographes, les caméramans. Après, évidemment... c'est très dur quand on voit des enfants morts. La guerre, en fait, la guerre est terrible. Oui, alors, mais c'est notre métier. Et bon, voilà, on n'a pas l'habitude, on n'aura jamais l'habitude de ça, mais c'est le métier qui veut ça.
Et puis, quand même, presque à la fin du film, on souffle un peu avec ce mariage improvisé. Je trouve que c'est une très belle scène qui donne aussi l'espoir de cette danseuse qui se marie avec le militaire. Ça se multiplie là. Enfin voilà, je sais qu'elle tient le discours du genre j'ai sauté sur l'occasion, peut-être qu'elle l'aurait jamais rencontré, elle se serait jamais mariée avec, et c'est assez curieux, mais en même temps on a l'impression de respirer un petit peu.
On a voulu monter cette scène à la fin du film pour symboliser un peu l'espoir des Ukrainiens voilà, c'est ça, pour montrer que oui, ils sont attaqués mais que la vie continue et que malgré tout il faut continuer à vivre, parce que c'est aussi ça la victoire, c'est de pouvoir vivre normalement, enfin normalement, presque normalement, et surtout aussi pour symboliser l'espoir de la victoire ukrainienne.
Et enfin, pour terminer, vous faites partie aussi de la relève de jeunes réalisateurs, jeunes grands reporters. Votre regard sur ce qui a changé peut-être, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux grands reporters d'avant, les vieux baroudeurs ? Est-ce que vous avez des références éventuellement ?
Ce qui a changé, je pense, déjà, c'est les réseaux sociaux. Maintenant, en fait, les premières images, généralement, c'est quand même des images, soit des militaires, soit des victimes qui filment avec leur téléphone portable. Donc ça change tout. Nous, on fait du documentaire, donc c'est un peu différent. On ne fait pas de l'actu chaude ou du JT. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on suit les gens, donc on raconte leur histoire. Donc ça, c'est encore une autre partie d'information. Les reporters de guerre... Donc nous, on fait toutes sortes de reportages, hein, pas que du reporter de guerre. Mais en reportage de guerre, ce qui a changé, je pense que ça n'a pas changé tant que ça. Parce que je veux dire, quand on se retrouve... tu me diras, mais quand on se retrouve dans une tranchée, que ce soit en 1914 ou aujourd'hui, je pense que c'est toujours la même peur, les mêmes obus, peut-être plus puissants, le même froid, dormir dans des trous la nuit comme ils le font, ce qu'on a fait durant le film aussi. Je pense que c'est un peu la même chose, mais je sais pas, dis-moi.
Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en termes de budget, c'est-à-dire que, et puis en termes de liberté de la presse. C'est-à-dire que moi, je me rappelle des. Enfin, j'ai parlé à des grands reporters de l'époque qui me disaient qu'avant, quand ils partaient 3 mois, on les embêtait pas, ils avaient le budget, pratiquement le budget qu'ils voulaient, ils pouvaient vraiment faire des films qui avaient du sens. Aujourd'hui, ce métier, le métier du grand reportage, du reportage de guerre est terriblement menacé. La guerre, ça n'intéresse plus les chaînes. Il y a de plus en plus de reportages de divertissement. Ce que j'appelle reportage de divertissement, c'est tous les films qu'on va voir sur les casse auto, les salons du mariage. Non mais c'est drôle, mais c'est en même temps terriblement dramatique, je trouve, de voir qu'en fait ce genre de reportage a dépassé le vrai grand reportage qui informe et qui apporte et qui éduque les gens. Et c'est un métier qui malheureusement est en train de disparaître. Je vais pas donner de nom, mais j'ai rencontré en Ukraine une réalisatrice qui travaillait pour une chaîne de télé qui faisait un documentaire sur les crimes de guerre. Alors c'était pas à Boutcha, c'était quelque part ailleurs en Ukraine. Elle était obligée de dormir, parce qu'elle manquait de budget, de dormir dans des chambres non chauffées alors qu'il faisait moins 10 degrés. Et en fait, on en est là. Il y a une crise terrible, et moi je suis très inquiet, pour l'avenir du grand reportage. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus vraiment d'intérêt, on est complètement aujourd'hui dominé par justement ce reportage de divertissement, et je trouve ça assez terrifiant.
Il y a beaucoup de jeunes qui partent avec leurs propres moyens, sans avoir rien vendu, ça on en a rencontré énormément. Ils risquent quand même leur vie, je veux dire, donc oui, c'est quand même assez compliqué. Alors c'est que ça fait pas beaucoup d'audience aussi, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, c'est quand même assez dramatique. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez de l'Ukraine. Là, on s'y est habitué, mais je trouve ça catastrophique. Je crois que c'est à 3 heures d'avion, donc c'est juste à nos portes, en fait. On a du mal à en vendre, quoi. Clairement, on a du mal, alors que c'est très important, quoi.
C'était un reportage autour du film documentaire « Ukraine, des femmes dans la guerre » réalisé par Charles Comiti et Julien Boluen, un film qui était proposé lors de la 30e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, et qui s'est déroulé du 30 mai au 4 juin dernier à Douai. Ce film était proposé dans le cadre de la compétition internationale des films de plus de 40 minutes.